France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Noah Baz, pédiatre de formation et de pratique, gastronome par passion, autrice par les hasards de la vie.
Bonjour Noah Baz.
Bonjour Caroline Brouet.
Premier épisode, le goût d'avant la guerre. Je suis heureuse de vous rencontrer, Noah Baz, parce que des profils comme le vôtre, ça ne court pas les rues. Vous l'avez déjà dit, vous êtes à la fois pédiatre, alors à Paris et à Beyrouth. Vous êtes autrice culinaire, vous êtes gastronome de passion, mais vous êtes aussi directrice d'une association de soins médicaux au Liban et directrice d'un prix dédié à la littérature gastronomique. Autrement dit, vous partagez votre temps et votre vie entre la médecine, l'écriture, la cuisine et les enfants, sans parler du reste. Pour ceux qui n'ont pas de quoi payer leur traitement médical, vous avez fondé au Liban cette association Les Petits Soleils, parce que si vous êtes né et que vous avez grandi dans une famille aisée qui ne manquait de rien, et c'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode, vous avez toujours été soucieuse du bien-être des autres. Est-ce que vous diriez que vous êtes altruiste ? Est-ce que c'est un mot qui vous parle de vous ?
Et c'est un mot qui m'a en tout cas très souvent été appliqué. Moi, je pense que je suis née comme ça, c'est tout. Je n'ai pas mis une étiquette sur comment je suis. Je dirais plutôt que je suis empathique. Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester étranger à la détresse des autres. Souvent, on me dit « mais tu t'en fiches ». Je ne peux pas. Ça me bouleverse et donc oui, je suis née comme ça. Alors, on peut appeler ça altruiste, on peut appeler ça... attentionné envers les autres, je ne sais pas. Moi, pour moi, je suis empathique, voilà.
Une autre des caractéristiques, peut-être, pour essayer de contourner ce qui parle de vous, Noah Baz, c'est votre sens de l'hospitalité, la générosité, et je le dis parce que nous enregistrons ces émissions chez vous à Paris.
Oui.
Et que nous avons été accueillis avec l'équipe par une foultitude de mets plus exquis les uns que les autres, faits maison,
oui.
Des petits gâteaux de chez vous, des plats préparés. Donc la générosité, l'hospitalité.
Et j'ai été élevée comme ça, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je suis née dans une maison qui était ouverte à tous, où tout le monde était reçu, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, avec la même chaleur, la même générosité. Et puis, c'est une façon de faire cas de l'autre. C'est une façon de dire qu'il entre dans votre cœur. On offre de l'eau de rose sur les mains. Ça, c'est une tradition levantine. J'ai appris ça quand j'étais enfant. Je voyais faire ça par ma gouvernante et une autre personne qui travaillait à la maison. Ma mère était genevoise, donc elle était suisse. Elle avait d'autres traditions. Et c'était très intéressant d'observer cette dualité et ces deux mondes. Voilà.
Deux mondes dans lesquels vous êtes née. Et oui. Peut-être, alors je ne sais pas si c'est du fait de cette double culture ou d'autre chose, ou peut-être d'un caractère qui vous est propre, Noah Baz, mais une troisième caractéristique, c'est votre optimisme viscéral, c'est votre joie de vivre. Dans « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur », qui est donc le titre d'une sorte d'autobiographie dictionnaire que vous avez publiée, on voit bien rien qu'au titre. Voilà, vous avez déclaré que vous vouliez le bonheur avant tout, quoi qu'il se passe. D'où vient cet épicurisme chez vous ?
Alors là aussi, je suis tentée de dire, je pense que je suis née comme ça. Et puis, il y a la vie qui a façonné ce que je suis, qui m'a appris à choisir le meilleur, je vais dire, et relativiser tous les obstacles, tous les exils que j'ai connus, toutes les choses très difficiles.
Alors, et un prénom qui dit quelque chose
oui,
aussi.
Oui, oui. Alors, Noah. Le prénom Noah, c'est le premier fil de lumière du jour. Ce n'est pas par hasard. Mes parents ont attendu 8 ans que j'arrive. Ils n'arrivaient pas. Ma mère faisait des fausses couches. Au Levant, c'était une malédiction. Dans la famille de mon père, elle en a bavé. On lui a fait même, et vous avez dû le lire dans Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, on lui avait fait un vœu à Saint-Antoine. Parce que le Levant est pétri de tradition et de religiosité. J'ai été élevée dans la religion catholique. Donc, ma mère, qui était calviniste, très rigoureuse et tout, on lui a fait avaler un coton avec de l'huile bénite de Saint-Antoine. Eh bien, croyez-le ou pas.
Vous êtes arrivée.
Je suis arrivée 9 mois plus tard, le jour de la fête de la Saint-Antoine, le 13 juin. Et ma sœur, elle est le 17 janvier, l'autre Saint-Antoine d'hiver. Et, mais c'est ça l'histoire, donc c'était très amusant.
Vous êtes l'aînée de la fratrie. Avec combien de frères et de sœurs, d'ailleurs, avez-vous ?
Alors, j'avais 2 sœurs et 1 frère. J'ai perdu 1 sœur. Et la vie m'a appris. Il y a eu un avant et un après, la perte de cette sœur-là. Parce que, d'abord, j'étais très proche d'elle. Et ensuite, parce que ça m'a appris encore plus que la guerre, l'urgence de vivre. J'ai été élevée aussi dans la façon que la gaieté était une politesse envers les autres. Qu'on gardait les problèmes pour soi et que quand on recevait quelqu'un à la maison ou quand il fallait faire cas de la personne, et les soucis, on les gardait pour plus tard. Et c'est un peu ma façon d'être dans la vie. Et c'est une façon de... Je parle très peu de moi. Les gens qui me connaissent vraiment savent que j'ai un côté très secret. Je ne me livre pas facilement. Par contre, il y a cette devanture qui est souriante, qui est mon caractère aussi, il faut le dire. Je suis quelqu'un... J'ai le goût des autres, tout simplement. On l'a ou on l'a pas dans la vie. Et c'est franchement très spontané. Je ne me force jamais. Pas du tout naïf, hein, mais c'est mon caractère. Voilà. Alors, quelquefois, on se prend des baffes, c'est sûr, parce que les gens ne sont pas du tout faits pareil. Mais la vie m'a appris à faire le tri. Voilà.
On va pas vous faire violence, Nora Baz, on va pas vous obliger à vous livrer là où vous ne voulez pas, mais on va quand même essayer au cours de ces 5 entretiens de percer quelques-uns de vos secrets. Oui. Alors ce qui n'est pas un secret, c'est que vous êtes née à Alep, Syrie, avant que le pays ne soit ravagé par la dictature puis par la répression des années 2010. Vous êtes née en 1962.
Voilà.
Vous avez raconté à quoi ressemblait cette Syrie dans la nuit de la pistache. Alep, souvenirs et gourmandises, et vous écrivez que c'était un oasis d'art de vivre et de douceur.
Oui, absolument. Et la pirouette de passer par la cuisine, c'était par pudeur. C'était pour cacher toute cette émotion, parce que à hauteur d'enfant, quand vous vivez quelque chose comme ça, déjà, quand il y a eu la dictature, mon père avait des fonctions étatiques, dans le sens qu'il était responsable de tout ce qui était électricité, énergie.
Et donc, il était ingénieur.
Ingénieur, ESCP, ponts et chaussées, enfin plein de trucs. Et il avait fait une licence de droit. Il avait bâti tous les barrages du pays, même un peu plus loin, le barrage d'Assouan, tout ça. Mais il avait ses propres idées, c'est-à-dire que lui aimait beaucoup tous les vestiges, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à accepter l'idée de raser, par exemple, les vestiges de Marie, tout ça. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, il était à Paris justement en train de défendre à l'UNESCO le fait que ces vestiges devraient être absolument sauvegardés. Quand il a été nommé ministre des Travaux publics en Syrie et qu'il a refusé le poste parce qu'il ne voulait pas du tout de la dictature des Assad et qu'il voyait déjà les ravages que le régime faisait, notamment dans les campagnes, avec le barrage de Assad, d'ailleurs, qui a été fait sur l'Euphrate, il a refusé le poste. À partir du moment où il a refusé le poste, il s'est vu assigné à domicile. Il a eu juste le temps de faire évacuer ma mère avec mes sœurs et mon frère à Beyrouth, où il avait déjà une maison. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Nous naissions à Alep, mais nous n'étions pas syriens. C'est ça le truc incompréhensible, c'est-à-dire qu'il allait nous inscrire immédiatement au Liban. Parce que lui, il avait acquis en 52, donc 10 ans avant, la nationalité libanaise, ayant effectué ses études à l'ESIP, qui est l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, où il a été major pendant 4 ans, et parce que c'était quand même un phénomène. Hein. Il avait eu ses 2 bacs à l'âge de 14 ans. Ce qui fait que moi, quand j'ai eu mon bac à 16 ans, c'était rien. C'était pas. On avait un devoir excellent.
Raté.
Ah oui, c'était déjà. Alors que bon, j'étais la plus jeune de ma classe et tout. Il y avait quand même une certaine dictature de l'excellence, je dirais, à la maison, qui n'était pas
dictature.
Une dictature de l'excellence. Il fallait, moi surtout l'aîné, donner l'exemple, hein, et donc je n'avais pas droit à l'erreur. C'est vrai que mon côté livresque est né avec moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment gamine et je demandais au Père Noël un dictionnaire. C'était quand même assez bizarre. On m'offrait des poupées. Bon, j'aimais bien, j'adore la mode. Mais mon côté livresque est né avec moi. Alors, il fallait tout bien faire à la maison. Ma mère insistait sur le côté piano, classique et tout ça. Je n'aimais pas le piano. J'étais en dictature, mais en même temps, ça pousse vers le haut. Ce qui m'était interdit, par contre, c'était la cuisine. J'avais pas le droit de rentrer dans les cuisines parce qu'ils avaient trop peur. Je ne tenais pas en place, en fait. Je courais tout le temps et je m'étais faite une brûlure de la plante des pieds en courant parce que c'était la saison des confitures et on mettait sur des réchauds à gaz des plaques, des petites plaques en fer. Je l'avais pas vu. Zou, mon pied dedans et mes parents étaient à Jérusalem à l'époque parce qu'il y avait un congrès d'ingénieurs. Et mon grand-père, le pauvre, a dû me prendre aux urgences. J'ai eu plusieurs brûlures. Donc, j'étais interdite de rentrer à la cuisine. J'avais le droit de regarder comme ça de loin. Mais, et ça m'a toujours fascinée.
Vous venez d'évoquer votre grand-père, Noah Baz, le grand-père Léon,
oui,
qui vivait avec vous. Il y avait du monde dans cette maison. C'était une grande maison, une grande famille bourgeoise, cette maison à l'Épine.
C'était dans le quartier Azizié, donc qui est le quartier où il y a, on dit, les sept familles d'Alep. C'est un peu comme ça. Et souvent, quand vous donnez une adresse, les gens savent exactement à quel milieu vous appartenez. Vous habitez tel quartier directement, c'est un niveau social que vous avez, c'est comme ça. C'était une très grande maison qui est toujours là aujourd'hui, avec un jardin et des arbres, des grenadiers, un cognassier. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient à la maison. Oui, il y avait une gouvernante par enfant déjà. Pour nous, c'était pas quelque chose d'incroyable ou de différent. C'était comme ça. De toute façon, il faisait partie de la famille. Il n'y a pas de lutte des classes dans les quartiers où nous vivions. C'était, en tout cas, c'est un mode de, c'est une façon de vivre, le Levant. Souvent,
je précise juste quand vous dites le Levant, c'est le Moyen-Orient.
Oui, c'est le
Proche-Orient, pardon.
C'est pas le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ça peut aller jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'en Iran. Alors que le Proche-Orient, c'est vraiment le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël.
Israël-Palestine.
Et Palestine. Donc, c'est ça, le Proche-Orient. Et, par exemple, jamais on avait le droit on n'y pensait même pas, de leur demander, affaler devant la télé un verre d'eau. Jamais. Par exemple, là où je dis c'était une dictature, il faut juste dire que les journées commencent très tôt au Liban avec la lumière qui se lève. Il fallait faire son lit, et donc ranger sa chambre avant d'aller prendre l'autocar. En aucune façon, une des personnes qui travaillait à la maison ne s'occupait de ça. Ça, c'est le côté très strict de mes parents et j'ai été élevée comme ça. Et je trouve que c'est une discipline dans la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est-à-dire on ne choisit pas sa naissance, on ne choisit pas son milieu, on ne choisit rien. Par contre, on choisit de donner aux autres et de regarder les autres et d'en faire cas. Et peut-être mon empathie pour les gens, la précarité et les gens démunis, j'y pensais l'autre jour, est peut-être venue de là. Que enfant, je voyais des fellahs, c'est-à-dire des personnes de la campagne, arriver avec des jeunes filles de 10, 12 ans qu'ils plaçaient dans les familles bourgeoises. Et je trouvais, pour moi, c'était terrible de laisser comme ça son enfant. Alors, il prenait de l'argent en contrepartie, mais ce que mes parents essayaient de m'expliquer, parce que je fondais en larmes, enfant, mon père me disait mais tu te rends pas compte, elles ont une vie dont elles ne peuvent jamais rêver. Et effectivement, Sadia, c'est-à-dire Ami en arabe, qui était ma gouvernante, dont j'ai mis la photo dans la nuit de la pistache, par exemple, je l'ai revue adulte, et elle m'a dit « je remercierai jamais tes parents assez de ce qu'ils ont fait pour moi ». Parce que elles étaient habillées, mais ma mère leur donnait des parfums à l'européenne. C'était des choses dont elles pouvaient même pas rêver à la campagne. Et puis elles s'en fichaient de savoir lire ou écrire. Tout ce qu'elles voulaient, c'était trouver un bon mari et des filles de la campagne. Elles avaient un savoir-faire qui se transmettait par ce qu'elles savaient faire, en fait. Elles savaient faire les confitures, tresser le fromage, effeuiller les roses pour faire la confiture de rose. Alors moi, j'étais fascinée. Je regardais ce monde-là qui était complètement différent de celui hyper protégé et hyper conservateur dans lequel j'ai été élevée.
Très école strict. Catholique.
École catholique, les jésuites venaient à la maison. Je n'allais pas à l'école. Quand le coup d'État a eu lieu et que la langue arabe a été imposée dans les écoles privées...
C'était quand ça?
C'était
pas en 65?
Je pense, c'était juste avant que je ne rentre à l'école.
Vous aviez 3 ans.
Donc, mon père a dit, c'est réglé. Ils n'iront pas à l'école. Et comme il était l'ingénieur des jésuites dans tout le Moyen-Orient. Alors, les bons pères jésuites venaient à la maison. C'était des espèces de cours particuliers qui nous étaient dispensés. Donc, forcément, un enfant avec un instituteur avance beaucoup plus vite pour apprendre une langue, pour apprendre l'arithmétique et tout. Et quand je suis arrivée à Beyrouth, à l'école des sœurs franciscaines, il y avait un examen d'entrée et j'avais même pas 8 ans. Ils m'ont mis en 6e. Et mon père a dit, c'est impossible. De 8 ans en 6e, c'est impossible. Et puis moi, j'ai dit d'une petite voix, mais de toute façon, je ne sais pas lire l'arabe. Et c'est vrai, parce qu'au Liban, nous apprenons plusieurs langues. Donc ce qui fait que, voilà, je n'allais pas à l'école, donc à Alep, c'est ça.
C'est précisément la question que j'allais vous poser, Noa, la question de la langue.
Oui.
Parce que votre mère était suisse, votre père libanais, vous aviez à la maison...
Donc, syrien libanais.
Syrien libanais, vous aviez à la maison des gouvernantes avec vous, qui étaient,
Qui parlaient l'arabe.
Syrienne.
Dialectale, oui.
Et donc, quelle langue parlait-on à la maison?
Alors, à la maison, nous, en famille, on parlait le français. Donc moi, j'ai été élevée dans le français.
Vos parents s'étaient rencontrés en France.
Oui, hein. C'est ça. Ma mère avait fait les Beaux-Arts à Paris. Et donc, elle avait fait un très joli portrait de moi qui a survécu à la guerre, une sanguine, que j'ai mis dans la recette d'où je viens. Ils s'étaient rencontrés donc à Paris. Mais elle, son père, était syrien. C'est-à-dire que mon grand-père est à Lépin, mais élevé quasiment en Europe. Il avait rencontré ma grand-mère à Genève. Collectionneur d'art, voilà, héritier d'une très grande maison de cristal. Donc en fait, c'est la famille de mon grand-père qui a fait la plupart des lustres que vous voyez dans les mosquées, les maisons levantines, voilà.
C'est donc vous parliez
voilà.
Arabe.
Donc on parlait, on parlait français à la maison, mais j'entendais l'arabe. Alors c'était très... c'était curieux parce que le mot azem... On entendait la prière, la première prière du matin en arabe. C'était très doux, très apaisant. Et ce qui m'a d'ailleurs frappé à Beyrouth l'année dernière, après les bombardements terribles qu'il y a eu en octobre.
On enregistre en 2025, donc vous parlez de 2024.
Oui, en 2024. La première fois que nous sommes rentrés avec mon mari à Beyrouth, c'était en mai 2025. On n'entend plus l'appel de la prière le matin. C'est très étrange dans un pays d'Orient, parce qu'on se lève avec ça le matin, avant les cloches des églises qui commencent, elles, vers 8 heures, on va dire. Et puis l'Angélus le soir. C'est très différent. Donc, nous entendions l'appel à la prière en arabe. À la maison, on parlait l'arabe, les cuisinières, le jardinier, le monsieur qui nous emmenait en charrette, tout ça. Et donc le dialectal, je l'ai entendu, je l'ai beaucoup entendu, c'est très marrant. Dans la langue arabe, le dialectal est très différent du littéraire. C'est ensuite que j'ai appris. Donc c'est pour ça que j'aime dire qu'on dit souvent une langue maternelle, donc ma langue maternelle c'est le français, mais personne ne parle de langue paternelle. Et moi, ma langue paternelle, c'est l'arabe. Même si francophone assumé et multilingue, je dirais. Mais...
D'autant que les deux parents étaient très tournés vers l'Europe. La France était comme un deuxième pays, puis c'est là qu'ils s'étaient rencontrés.
La Suisse aussi.
La Suisse, évidemment. On va parler de Genève et de Lausanne dans un instant, Noa Baz. Mais cette culture francophone, elle passait notamment par la littérature. Je crois que c'est votre mère qui vous emmenait, en particulier dans la librairie francophone de Monsieur Haas.
Monsieur Haas, doublé de Monsieur Hirondel, parce que c'était... Le monsieur qui l'aidait dans la librairie était de la famille Snounou. Le Snounou, en arabe, c'est l'hirondelle. Alors nous, on éclatait de rire, ce monsieur Snounou. On arrivait, on était gamins. Qu'est-ce qu'on lisait? Bob et Bobette ou... On avait un budget, mais illimité pour la culture et pour les livres. On pouvait, voilà. Mais les jouets, par contre, c'était moins... Voilà. Il fallait que ça soit utile, mais pas ludique, forcément. J'ai trouvé à travers ces lectures beaucoup de joie. Un autre monde, en fait.
Un autre monde aussi avec la Suisse où vous passiez des vacances. C'était quoi la Suisse pour
vous ? La Suisse, c'était oui, c'était aller voir la famille de ma grand-mère et c'était des vacances dans les Alpes. Alors c'était carrément comme si aujourd'hui vous preniez une fusée qui vous amène de Damas ou d'Alep sur la Lune. C'était tellement un autre monde, mais ça avait rien à voir. C'était immaculé, comme je disais, les routes, alors que les souks d'Alep, c'était où je n'avais pas le droit d'aller, mais où mon grand-père Léon m'emmenait quand mes parents étaient en voyage. Les odeurs, les bruits, les boniments, vous savez, des marchands, la poésie des marchands, tout ça, que j'adorais, que je ne peux pas penser à Alep sans penser à tous ces bruits, à tous ces sons. On arrivait en Suisse, c'était un calme incroyable. Et puis en plus, comme il y a de la gastronomie en famille aussi, du côté suisse, il fallait manger chevreuil au chocolat, qui me paraissait immonde quand j'avais 10 ans, parce que je rêvais de hamburgers, de frites, quoi, comme tous les gamins. Mais ça m'a également beaucoup appris. Voilà.
On parle, Nora Baz, de cette époque bénie pour vous, hein, de cette petite enfance à l'épine. On est dans vos 6 premières années,
oui.
Puisque en 1967 éclate la guerre des 6 jours. Vous restez avec votre frère et vos sœurs sous la garde de votre grand-père, Léon. C'est la première expérience de la guerre. Elle est loin, mais enfin, malgré tout, elle est présente.
Elle est pas si loin parce que, oui, elle est présente parce que tout d'abord, mon père était habillé en militaire. On l'avait obligé à apporter les habits des généraux. Et puis, c'était suivant leur grade. Donc, c'était colonel ou voilà. Et on voulait l'envoyer dans le Golan. Parce que c'était à ce moment-là que la Syrie avait perdu le Golan. Et lui, il disait à qui voulait l'entendre que de toute façon, on s'était perdu d'avance. Mais bon, il valait mieux se taire. Donc, on avait été obligé de peindre les fenêtres de la maison en bleu sombre pour que les avions ennemis ne voient pas les lumières. Et ma sœur avait oublié une petite bougie à l'étage des chambres. Et nous étions tapis dans le sous-sol de la maison. Et on entendait hurlements de militaires et des crosses qui tapaient sur la porte d'entrée parce que cette bougie était allumée et que le quartier pouvait être bombardé à cause de nous. Donc ça, c'était déjà le bruit des bottes, je l'ai connu très tôt. J'ai pas très bien compris ce qui se passait parce que c'était des chants militaires à la radio toute la journée. Mes parents sont revenus à ce moment-là et donc une partie de la famille a été s'installer à Beyrouth. Mais moi, je suis restée donc avec mon grand-père Léon, avec tout le personnel de la maison et papa, qui continuait à faire acte de présence, puisqu'il gérait toute l'électricité de toute la région, en fait, et puis tout ce qui était recherche hydraulique. Et surtout, il fallait faire semblant que nous étions encore présents, parce que interdiction de sortie du territoire, forcément. Donc, j'ai été séparée du reste de la famille pendant quasiment 8 mois. Et pendant ces 8 mois, j'ai beaucoup observé, j'ai fait tout ce qui m'était interdit avant. Donc j'allais dans les souks, les traditions étaient gardées, mais la famille avait été déjà obligée de se séparer parce que le régime syrien empêchait la sortie de mon père. Et pour dire que non, il ne sortait pas, il y avait un salon dans cet immense hall de la maison. Il y avait un salon au milieu et Dans l'arrière côté de la maison, il y avait de grandes caisses dans lesquelles mon père jetait subrepticement, pour les emmener à Beyrouth, ses 33 tours d'opéra, ses livres, enfin tout ce qui lui tenait à cœur. Et puis bon, c'était une période finalement qui m'a énormément appris. Comme tout était fait à la maison, donc j'ai appris à faire le pain, je regardais comment on tressait le fromage. C'était bien, ça m'a fait oublier que les autres n'étaient pas là momentanément et tout. Et ensuite, quand on a dû quitter la nuit de la pistache, c'est la dernière nuit où j'étais donc avec cet ami de mon père et mon père dans cette Chevrolet qui est toujours exposée à Alep, qui ne fonctionne plus. La maison est devenue un centre culturel, donc voilà. Et donc, nous avions essayé de quitter la Syrie et à la frontière, évidemment. Ils ont vu mon père, ils nous ont dit interdiction de sortie. Donc, nous sommes revenus. Et il était tellement furieux. Et après, l'année scolaire commençait à Beyrouth, donc je devais absolument aller pour rejoindre une scolarité qui avait déjà été établie. Et donc, j'ai quitté la gare d'Alep avec une religieuse franciscaine.
Qui était votre professeur de piano en temps normal.
Oui, qu'on appelait Sœur Canard. Mais bon, parce qu'elle me tapait sur les mains quand je faisais une fausse note. Donc voilà, c'était très joyeux. Mais bon, elle était gentille finalement. Et mon grand-père qui m'avait donné un numéro de Mickey en me disant « Tiens, c'est pour te changer les idées ». Et je suis arrivée à Beyrouth.
Vous saviez que vous ne reviendriez pas à Alep?
Non.
Que c'était un départ?
Non, je ne savais pas. Alors ça, c'est ça qui était... je pensais que c'était juste pour qu'on aille faire la scolarité, le temps que les choses se calment dans le pays. Et en fait, j'avais pas compris que c'était définitif. Par exemple, ma grand-mère paternelle, je l'ai plus jamais revue. Elle est décédée 2 ans après. Mais on ne vous prévient pas quand vous êtes enfant de tout ça. Et quelque part, après... Vous vous dites qu'ils ont voulu vous protéger. C'était pour eux peut-être le plus beau cadeau qu'on vous laissait avoir. Donc mon père, c'était quelqu'un qui ne voulait pas du tout nous encombrer la vie avec les choses tristes. Voilà, il y avait toujours pour lui une échappatoire. Et je pense que j'ai un peu hérité de ça aussi. Voilà.
Malgré tout, Noa Baz, ce dernier jour avant votre départ, votre père... vous a emmené écouter le chant de la pistache, ouais. C'est ce que vous racontez dans un de vos livres, dans un champ de pistachiers à une demi-heure en voiture d'Alep, et il vous a dit une phrase importante, vous vous en souvenez de cette phrase?
Oui, n'oublie jamais les couleurs et les goûts de cette terre, malgré tout ce qui se passe dans la vie.
Essaie d'en garder toujours le meilleur.
Essaie d'en garder toujours le meilleur. Et c'était exactement son caractère, c'était vraiment ça. Je pense que c'est ma façon de voir la vie aujourd'hui.
Et c'est aussi quelque chose qu'il voulait dire, c'est pas sûr que tu le reverras
tout. Oui, mais je l'avais...
Mais
oui,
pas...
Non, j'avais pas capté à ce moment-là que c'était définitif. Il avait un côté poète, parce que voilà, il lisait énormément, ma mère aussi, et j'avais jamais... C'est ce qui les avait d'ailleurs beaucoup réunis, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était définitif. Voilà.
Vous disiez tout à l'heure que la maison à l'Épine était encore là, elle était devenue un centre culturel. Vous êtes, vous, retournée à Alep une première fois en 1997.
Oui.
Vous racontez ce voyage dans le Levant, le dernier livre que vous avez publié en 2025. On en parlera dans l'épisode 5, Noa Baz. Qu'est-ce que vous avez retrouvé à Alep?
Les odeurs, les parfums, les bruits. Tout ce qui m'avait marqué enfant. Alors, ce qui était fascinant, c'était que nous avons fait le voyage en 97 avec mon mari en voiture et que, à l'entrée d'Alep, je me suis souvenue, j'ai servi de GPS. Je lui ai dit, tu tournes maintenant. Il me dit, tu es sûre? Et je lui ai dit, oui, tu vas voir, il y a le grand jardin public et juste, tu prends la première avenue à droite et nous nous sommes arrêtés pile devant la maison.
Vous évoquez votre mari, Noa Baz, et il se trouve que ce jour de première diffusion de nos entretiens, 24 novembre 2005, correspond à un anniversaire et pas n'importe lequel. Je crois que c'est le jour où vous fêtez vos 45 ans de mariage.
Oui, absolument.
Félicitations. C'est un jour important.
Merci,
c'est
oui,
presque un hasard, mais
drôle.
Le hasard fait bien les choses.
C'est drôle.
En tout cas, nous avons rendez-vous pour l'épisode suivant, demain. Le Beyrouth des années 1970, on change d'ambiance. Merci beaucoup.
Merci.
Et à demain.
Caroline, à demain.
C'était À Voix Nue avec Noa Baz, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Loïc Duros, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.